Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap et c'est parfait parce qu'on parle maintenant des sorties cinéma. Alors au programme aujourd'hui, une comédie incroyable mais vraie avec une mystérieuse trappe, mais aussi une histoire de famille, une histoire d'héritage et puis surtout une histoire corse. On parlera aussi de la face cachée des réseaux sociaux avec une influenceuse fitness avant de plonger au cœur du cinéma et de l'histoire dans une nouvelle comédie dramatique franco-belge. Tout un programme. Et aujourd'hui, comme toujours, ils sont là depuis le début de l'émission, Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
Bonjour, bonjour Laurie.
Enfin, bonjour,
tout à fait. C'est un réflexe maintenant.
Bon, un mot sur le box-office,
ouais.
Sans trop de suspense.
On prend les mêmes,
ah bah oui, c'est ça, des gros avions avec Tom Cruise.
Ah non.
Quoi?
Quelle est la
surprise? Réfléchissez bien. Le premier, celui qui a fait le plus d'entrées cette semaine.
Cette semaine?
Mmh.
Alors déjà, j'arrive pas à me rappeler les films qui sont sortis la semaine dernière, donc... Si, ah bah si.
Je donne un
avis,
ah mais
évidemment, c'est ce très très mauvais film de Jurassic World 3, effectivement.
Jurassic World était très attendu, il a cartonné cette semaine, des spectateurs donc motivés par les bons conseils de Victor Bonnefoy la semaine dernière, qui a aiguisé leur curiosité. En tout cas, 1 300 000 spectateurs en une semaine, gros succès.
On va voir si Top Gun ne repasse pas devant quand même, hein.
Oui, c'est fort possible.
Ah bah, ça vaudrait mieux le coup, quoi.
Et Top Gun continue de marcher très fort en troisième semaine avec 617 000 spectateurs supplémentaires pour un cumul désormais de 3 335 000 entrées, soit le plus gros succès de l'année, évidemment. Enfin, la troisième place, Champagne, sauve l'honneur du cinéma français avec 122 000 tickets vendus en une semaine.
Oh, mais c'est déjà pas mal.
On les a reçus, on était en direct de Roland-Garros. On est très contents pour eux. Alors on commence notre tour d'horizon des sorties salles avec Incroyable mais vrai. On recevait Alain Chabat et Léa Drucker la semaine dernière. Donc la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. On peut vous dire que c'est vraiment très drôle. C'est compliqué de résumer le film parce qu'il faut garder le suspense. Mais c'est l'histoire d'un couple joué par Alain Chabat et Léa Drucker qui emménagent dans leur nouvelle maison. Et là, ils trouvent une trappe. Alors en apparence, elle est normale. Mais en réalité, elle va bouleverser le cours de leur existence.
J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit...
C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner?
Laisse-le parler, tais-toi.
Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose.
Bah dites-nous quoi, merde.
Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire et pourtant c'est la vérité.
Non mais c'est juste dingue.
Et alors, c'est pas tout.
Eh, vous aimeriez savoir. Alors, quand on descend dans ce conduit, Victor Bonnefoy.
Alors, quand on descend dans ce conduit, on voit du très bon cinéma, déjà, pour commencer. Ça fait plaisir.
Alors, moi,
j'ai jamais caché le fait que j'aime beaucoup le travail de Quentin Dupieux. Et il le remontre avec Incroyable mais vrai. C'est un cinéma qui est toujours fait de petits bonbons. C'est des films très courts qui durent 1h20 et on va picorer de film en film pour découvrir un peu plus son univers. Mais là, pour la première fois, au-delà de la comédie, parce que la comédie dans Incroyable mais vrai est passionnante, j'y vois aussi un film beaucoup plus sombre. C'est un film qui questionne des choses, qui questionne aussi son époque.
Sur le temps qui passe.
Exactement. Et c'est intéressant de trouver ça dans le cinéma de Quentin Dupieux, qui avait fait ça de sa force au tout début de son cinéma, notamment avec Steak, avec Eric Ramsey à l'époque, qui parlait de chirurgie esthétique et tout, qui était déjà un film inquiet sur l'époque, mais qui s'était un petit peu perdu pour partir dans quelque chose de plus absurde. Et là, il y revient, comme si soudainement il avait besoin de faire le bilan de toutes ces années passées. Il en est quand même à son 10e, 11e long métrage, si on compte Fumer fait tousser, qui est son prochain, et qui est encore plus sombre qu'Incroyable mais vrai. Ne vous arrêtez pas sur ce que je suis en train de dire en mode oh, c'est sombre ou quoi que ce soit. Non, le film est surtout très drôle avec
très
un casting extrêmement talentueux. C'est-à-dire, on va à la fois parler de cette vieillesse ennemie que de Zizi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le film qui parlent de bites. Et c'est pas pour le coup dérangeant parce que c'est toujours fait avec une certaine subtilité. C'est jamais putassier dans le cinéma de Dupieux. C'est toujours malin, c'est toujours très enfantin, c'est toujours très naïf, c'est toujours très drôle. Allez voir Incroyable mais vrai en salle. C'est un vrai petit bon moment de cinéma.
On écoute vos réactions.
Un peu spécial, mais il y a l'imagination.
Bah, moi, ça m'a beaucoup plu. Super casting, très drôle, un peu plus riche en termes de scénar, je trouve, que les derniers.
Moi, on va dire que j'ai mes réserves. Par une idée, il l'étire un peu, beaucoup trop, il se rend compte que ça marche pas de ouf, du coup, il fait vraiment du remplissage. Mais c'est vraiment pas son meilleur, je suis un peu déçu même.
Ouais, j'ai bien aimé. Ça fait un bout de temps que je connais Dupieux. J'ai toujours apprécié son cinéma, même si on est un peu à la limite du foutage de gueule, mais ça fait partie du jeu. Là, c'est un ton plus pince sans rire. J'ai bien apprécié, ouais.
Mitigé, mais c'est normal, c'est un cinéma qui divise.
Oui, tout à fait. Alors, pour être tout à fait honnête, je préfère 100 fois le cinéma qui divise et qui crée du débat que le cinéma consensuel qu'on oublie une semaine après.
Alors on continue avec Fraté, comédie 100% corse de Carole Rocher qui a co-réalisé avec sa fille. C'est vraiment une histoire de famille puisqu'elle dirige également Thomas Njol qui est son compagnon. C'est l'histoire de deux frères, donc joués par Thomas Njol et Samir Ghesmi, qui se rencontrent et découvrent leur lien de parenté après la mort de leur père. Seulement voilà, pour partager l'héritage, ils vont devoir cohabiter ensemble pendant un mois dans la maison familiale de Haute-Corse. Autant vous dire que c'est pas gagné.
C'est qui lui ?
Georges souhaitait vous reconnaître. Je souhaite que tu vives 30 jours dans la maison de ta famille.
Non mais oh ! Tu arrêtes tes conneries, oui !
Ah oui, ça sent là. S'il y a quelque chose qui pue ici, c'est pas le fromage.
30 jours. Mais 30 jours, c'est rien.
Je suis 100 fois plus corse que toi. Je ressemble comme deux gouttes d'eau à ton père. C'est son sang qui coule dans mes veines. Mais moi, au moins, je sais qui je suis.
Et on salue les habitants du village de Vezzani, en Haute-Corse, près de Corté. Et les acteurs corses qui sont formidables. On écoute vos réactions.
L'histoire et puis les acteurs. C'est pas des acteurs que je privilégie, mais j'y suis allé parce que j'avais un peu de temps.
Plutôt bien, assez marrant à quelques moments. Après, il y a un petit calme plein. Ça pouvait être un peu gênant d'avoir, encore une fois, des acteurs qui venaient pas de Corse pour jouer des rôles corses. Mais tout le sujet du film est sur des personnages qui ne viennent pas de Corse et qui ont été assimilés à cette culture-là. Donc au final, c'est plutôt réussi.
Et puis tous les seconds rôles sont joués par des acteurs corses. On parle maintenant de Sweat, un film suédois qui parle d'un thème très actuel, les réseaux sociaux. Mais surtout, les influenceurs, on passe 3 jours dans la vie de Sylvia, une influenceuse fitness suivie par 600 000 abonnés, avec qui elle partage absolument tout pour être la plus authentique possible. Mais derrière son énergie et son sourire, eh bien voilà, comme tous les influenceurs, elle a une vie, elle a des hauts et des bas, elle souffre d'une grande solitude par moment.
Pas tout à fait sûr, justement, elle n'a pas de vie.
Oui, elle n'a pas de vie. Bah justement, Franck Vallière, vous en avez pensé quoi ?
J'ai beaucoup aimé ce film qui s'inscrit pour moi un peu dans la lignée de Pleasure l'année dernière, qui était sur l'industrie du porno, qui dit énormément de choses de notre époque. J'espère que Dieu me prête avis pour que dans 30 ans ou 40 ans, je puisse revoir ces films-là et voir comment ils ont vieilli. Qu'est-ce qu'on a fait de cette époque-là ? C'est certes le quotidien d'une influenceuse sur 3 jours hein, uniquement, mais en fait l'essentiel est ailleurs. Déjà le travail du réalisateur, c'est sur la latence. Au moment où on commence peut-être à s'ennuyer, il se passe quelque chose. À chaque fois, des trucs infimes, à droite, à gauche, pendant un dîner qui n'en finit plus avec sa mère. On comprend au travers de toutes petites choses les problèmes qui existent au sein de la famille, sans les nommer précisément. Et du coup, ça nous renvoie en fait à nos utilisations des réseaux sociaux, qui sont forcément un peu exagéré, on va dire. Et au final...
Et la place que tiennent les réseaux sociaux dans notre vie.
Oui, mais du coup, le travail du réalisateur réside dans le fait de non seulement de nous renvoyer à ça, mais surtout de ne pas juger, en fait. Parce que, est-ce que cette personne est bonne ou mauvaise ? On ne le sait pas, en fait. Et je trouve que c'est très malin pour ça.
Victor ?
Non, mais Franck citait Pleasure, qui Pleasure, à la différence de Sweet, est un bon film. C'est-à-dire que le souci de Sweet, en fait, c'est que c'est vraiment...
vous a plu.
Mais en fait, la vraie différence, en fait, réside dans le fait que Sweet reste vraiment au niveau 1 de la question de ce que sont les influenceurs. Et en fait, on sait déjà toutes
un
ces choses-là.
Un univers que vous connaissez bien.
Mais que je connais très bien, mais qui en même temps est un univers que tout le monde connaît. Il suffit d'ouvrir YouTube aujourd'hui pour que les gens nous racontent leur vie et que même aujourd'hui, dans les détails les plus sombres, on puisse les connaître. Là, le problème, c'est que ça manque drastiquement de cinéma. La réalisation n'est pas particulièrement intéressante.
Ah ouais.
Le scénario est d'une platitude absolue. Bah, je trouve que ça met vraiment, sur un film d'une heure 35, mettre une heure et quart à démarrer, c'est quand même un peu compliqué. Surtout quand le scénario est construit sur le fait qu'à un moment, il lui arrive un truc et que c'est vraiment cette construction de scénario horrible où il arrive un truc au personnage et tout le long du film, elle raconte aux gens, il m'est arrivé ça. Et puis c'est la même scène qu'on te re-raconte pour voir, alors comment on réagit telle personne, Je trouve ça d'une lourdeur dans l'écriture absolument horrible. Je trouve que la réalisation est... Et ce qu'on fait de factuellement plat aujourd'hui avec une caméra portée pas très intéressante, regardez plutôt Pleasure, c'était quand même vachement mieux.
Mais Franck, vous n'avez pas l'air d'accord, vous êtes resté la bouche ouverte tout du long.
On n'a pas vu le même film, Victor, parce que ce travail justement sur la latence qui pourrait ressembler au travail de... comment s'appelait ce film ? Un couple parfait avec Toleschini et Valeria Bruni Tedeschi qui travaillent justement sur la longueur et jusqu'à ce que l'ennui devienne intéressant. Non mais attends.
C'est toujours un argument que j'adore, c'est on se fait vraiment chier. Mais oui, mais c'est le but. Oh,
non, je ne suis pas du tout d'accord, il y a tout un tas de petits détails, l'embrouille avec sa mère, l'embrouille avec son compagnon de travail, dont on va découvrir qu'il
les
est
problèmes
peut-être
avec maman, elle s'est trouvée un nouveau copain, c'est tellement dur.
Mais c'est pas ça du tout, Victor.
Mais non, mais c'est surtout que le film passe à côté de son sujet en permanence, quoi. Il l'esquive, il le touche du doigt, mais vraiment, il n'ose pas plonger dans le grand bain.
Mais attention, le sujet, c'est pas les influenceurs, c'est la désensibilisation des sentiments, enfin, la monétarisation de tout sauf des sentiments et accessoirement l'époque qui est complètement insensible.
Oui, et de la même manière que Jurassic World, son sujet, c'est pas les dinosaures.
Bon, moi, je suis au spectacle. Hein. Et vous ne tomberez pas d'accord aujourd'hui.
Non, mais écoute, ça,
mais vous êtes pas ennuyé, vous, Franck.
Ah, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Bon. Vraiment, vraiment.
Alors, on écoute vos réactions.
J'ai beaucoup aimé. Au début, on pense que c'est une satire. Et en fait, on voit aussi le côté fragile de la personne qui s'expose. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tout est beau, magnifique. C'est la vie rêvée. Et en fait, bah, c'est pas ça.
C'est bien fait. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de superficiel, mais c'est profond, hein, quand même.
J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé que l'actrice était vraiment exceptionnelle. Et belle surprise.
Et puis on termine avec Le Chemin du Bonheur, deuxième film du réalisateur Nicolas Steil, un film qui se passe dans les années 80 à Bruxelles. Un réalisateur veut faire un film sur la vie d'un restaurateur survivant de la Shoah, joué par Simon Abkarian. Il est lui-même grand fan de cinéma, son restaurant y est dédié, et il va faire la rencontre d'une projectionniste jouée par Pascal Arbillot. C'est une comédie dramatique où la romance et l'histoire se mêlent, le tout en rendant hommage au 7e art. Il est mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui dans le Gard, entouré de ses proches. C'est par ces mots simples que son épouse a communiqué hier à l'AFP la disparition de Jean-Louis Trintignant à l'âge de 91 ans. L'immense comédien avait quasiment débuté sa carrière en 1956 avec un classique et un chef-d'œuvre du cinéma français, Dans les bras de Brigitte Bardot, C'est bien sûr et Dieu créa la femme.
Juliette ! Juliette ! Veux-tu être ma femme ?
Non.
Je suis sûre que je saurais te rendre heureuse.
Non, faut pas.
De quoi as-tu peur ?
De moi. Tu vois la tête de ta mère quand tu vas lui annoncer la nouvelle ?
Une carrière riche ensuite de près de 120 films en 65 ans, au cours de laquelle il tourna avec les plus grands réalisateurs. De Dino Rossi dans Le Fanfaron, à Bernardo Bertolucci dans Le Conformiste, en passant par Éric Rohmer pour Ma nuit chez Maud, ou encore François Truffaut dans Vivement dimanche, sans oublier les films de Michel Deville, François Giraud, Jacques Audiard ou encore Patrice Chéreau. Comment ne pas citer également Un homme et une femme de Claude Lelouch avec Anouk Aimée, Palme d'or en 1966.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal?
Pourquoi pas?
Ou bien Z de Costa Gavras, prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1969. Si l'acteur fut plus discret ces dernières années, après le drame de sa vie, la mort de sa fille Marie en 2003, il nous bouleversa dans Amour de Michael Haneke, qui lui valut le César du meilleur acteur en 2013.
Qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal? Qu'est-ce qui se passe? C'est la couche? Elle est pleine? Où est-ce que tu as mal? Ça va. Je suis là. Tout va bien.
Après Belmondo, encore un frère qui part et je suis bouleversée, a réagi hier Alain Delon. Pour tous les amoureux du cinéma, pour tous les gens de la profession, pour le public, c'est un acteur exceptionnel, rare et élégant que nous avons perdu hier.